Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Le royaume des cieux selon l'évangile de Matthieu. Voici le thème actuel de nos émissions. Comment définir le royaume des cieux? Et comment mener sa vie à la lumière de ce royaume? Ces questions nous intéresseront tout au long des séries que nous consacrerons à ce sujet. Notre invité Guy nous rejoint pour nous éclairer davantage. Guy, bonjour.
Merci Yann et bonjour à tous. La dernière fois, nous avons commencé à réfléchir au thème du royaume des cieux en étudiant Matthieu au chapitre 4, le verset 17, où le message de Jésus se résume ainsi. Le royaume des cieux est proche. Nous avons compris que Dieu est souverain. Il règne dans les lieux célestes et maintenant, pour accomplir la promesse et les prophéties de l'Ancien Testament, il va rétablir son règne sur la terre, et plus précisément dans le cœur de femmes et d'hommes qui se sont rebellés contre lui.
Et nous avons conclu la dernière fois que Jésus, en annonçant « le royaume des cieux est proche », affirme en fait « votre roi est arrivé ». Autrement dit, Jésus est le roi qui vient accomplir les promesses de l'Ancien Testament.
Oui, et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, et probablement lors de notre prochaine émission, nous répondrons aux questions suivantes. Comment Matthieu prouve-t-il que Jésus est le roi promis et qu'il est divin? Et qu'est-ce qui caractérise le règne du roi Jésus?
Merci. Et l'évangile de Matthieu commence par la généalogie de Jésus. Certains peuvent trouver cela étrange.
Cela peut paraître étrange à nos yeux, mais en fait, cette généalogie sert justement à appuyer l'affirmation que Jésus est le roi promis. En fait, les prophètes avaient annoncé que le roi par excellence serait un descendant du roi David. Si donc nous affirmons que Jésus est roi, il est nécessaire de démontrer qu'il fait bien partie de la lignée de David. Or, la généalogie apportée par Matthieu prouve bien cela. Jésus est un descendant de David. Il remplit ainsi le critère prophétique.
Et ensuite, Matthieu relate la naissance de Jésus. Et il s'agit d'une naissance extraordinaire car sa mère Marie l'a conçue par la seule puissance du Saint-Esprit, sans avoir de rapport avec un homme.
Oui, et Matthieu présente Jésus comme étant Emmanuel. Ce nom signifie « Dieu est avec nous ». Autrement dit, en la personne de Jésus, le roi des lieux célestes est devenu l'homme pour vivre parmi son peuple. Tout au long des récits relatant la naissance de Jésus, Matthieu se donne de la peine pour prouver que Jésus accomplit les prophéties. Par exemple, le prophète Michée avait annoncé que le roi promis naîtrait à Bethléem. Et bien sûr, c'est là où a eu lieu la naissance de Jésus. De plus, ces récits relatant la naissance de Jésus mettent en avant un autre fait intéressant.
Lequel ?
Nous apprenons que quelques savants sont venus d'Orient pour rendre hommage à Jésus. Ces savants, en étudiant les astres, ont déduit et conclu qu'un nouveau roi venait de naître en Israël. Leurs recherches les ont conduits à Jésus. Ils lui ont offert des cadeaux, mais ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont adoré ce bébé. Ils ont adoré Jésus. Normalement, on doit adorer Dieu seul et non un homme, surtout dans un contexte juif. Si donc ces savants ont adoré Jésus, et si Matthieu approuve ce qu'ils ont fait, cela révèle qu'ils étaient convaincus du fait que non seulement Jésus est roi, mais qu'il est un roi divin. Il est Dieu venu parmi nous pour établir son règne.
Ainsi, dès les tout premiers chapitres de son évangile, Matthieu cherche à persuader ses lecteurs que Jésus est le roi promis, le roi divin.
C'est exact, Yann. Abordons à présent le discours sur la montagne dans Matthieu, chapitre 5, au verset 7. J'ai trois remarques rapides à faire. La première est celle-ci. À plusieurs reprises, Jésus parle de la loi divine, révélée à Moïse. En employant la formule, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis. » En employant cette formule, Jésus affirme que la loi est bonne, mais en même temps, il se donne le droit d'apporter une nouvelle interprétation de la loi, une interprétation plus profonde, visant davantage les pensées et les sentiments de nos cœurs. la véritable source du péché. Mais voilà ce qu'il faut retenir. En employant la formule « je vous le dis », pour expliquer la loi au peuple en y apportant une lumière nouvelle. Jésus use d'autorité royale et divine. Il s'agit d'un indice de plus qui montre qu'il est effectivement le roi divin. La deuxième remarque est que, lors de son discours sur la montagne, Jésus commence à révéler qu'il est le roi. Toutefois, pas un roi comme les autres, car il ne répondra pas forcément aux attentes du peuple d'Israël.
Et comment pouvez-vous affirmer cela ?
À travers le discours sur la montagne, Jésus enseigne, entre autres, l'attitude à avoir envers ses ennemis. Il déclare en effet « Aimez vos ennemis ». À cette époque, le peuple d'Israël gémissait sous l'occupation de l'Empire romain. Les Romains étaient devenus leurs ennemis et la plupart des Juifs espéraient que Dieu allait envoyer son roi promis pour, justement, combattre les forces de Rome et libérer le pays. Bien sûr, pour accomplir une telle libération, il faudrait recourir à la force et à la violence. Et déjà en Israël, des groupuscules armés menaient des actions de résistance contre l'occupant. En enseignant « Aimez vos ennemis », Jésus condamne le recours à la vengeance et à la violence préconisés entre autres par les Zélotes, un groupe de résistants à cette époque-là. En même temps, Jésus montre l'exemple. Il n'a pas recours à la violence, il use plutôt de bonté et d'amour. Jésus ne combattra pas le mal par le mal, non. Il combattra le mal par le bien, et il encourage ses disciples à suivre ce même chemin. Quel roi n'a jamais eu recours à la force des armes ou à la violence ? En ceci, Jésus révèle qu'il est un roi différent. Il ne répondra pas aux attentes de ceux qui voudraient qu'il mène une insurrection contre l'État romain.
Ces propos nous donnent matière à réflexion. Mais quelle est la troisième remarque que vous voulez faire ?
Citons les dernières paroles de Matthieu au chapitre 7. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi. Les personnes qui ont écouté Jésus ce jour-là ont reconnu être en présence d'un personnage extraordinaire. Jésus parlait avec autorité. Or, elles n'avaient jamais entendu quelqu'un parler de la sorte auparavant. L'autorité de Jésus est royale et divine. Et justement, les chapitres 8 et 9 de l'évangile de Matthieu nous révèlent davantage cette autorité royale et divine de Jésus.
D'accord, parlez-nous-en alors.
Ces deux chapitres nous présentent une suite de miracles que Jésus a accomplis dans la région de Galilée. Il y a, d'une part, des miracles de guérison, car Jésus a guéri des personnes atteintes de paralysie, il a redonné la vue à des aveugles, il a permis à un homme muet de parler, il a purifié quelqu'un atteint de la lèpre, et de surcroît, il a ramené une jeune fille de la mort à la vie. D'autre part, ces chapitres nous présentent deux récits où Jésus délivre des hommes de possession démoniaque. Nous y trouvons aussi un autre récit où Jésus apaise une tempête violente en prononçant seulement quelques paroles. Puis Jésus, en parlant à l'homme qu'il a guéri de sa paralysie, il lui annonce que ses péchés sont pardonnés. Tous ces récits servent à démontrer que l'autorité de Jésus dépasse celle d'un simple enseignant. Elle dépasse même celle des prophètes, comme celle de tout roi. Jésus exerce son autorité sur le monde naturel. Il peut guérir, maîtriser les tempêtes, il a le pouvoir sur la mort et la vie. Jésus exerce également son autorité sur les ténèbres, le monde des esprits. Les démons lui obéissent et ne lui offrent aucune résistance. Puis il faut noter que lorsque Jésus a pardonné à l'homme paralysé de ses péchés, les savants religieux l'ont accusé de blasphème.
Et pourquoi ?
Parce que selon eux, seul Dieu a l'autorité de pardonner les péchés.
Donc si Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés, cela veut dire que son autorité est divine ?
C'est exact, Yann. En fait, tous ces incidents relatés dans les chapitres 8 et 9 de Matthieu tendent à prouver que Jésus parle investi d'une autorité royale et divine. Il est roi. Il n'est pas un roi comme les autres. Les rois de la terre ne peuvent pas guérir, ils ne peuvent pas chasser les démons, ils sont incapables d'influencer la météo, ils ne peuvent en aucun cas redonner la vie. Et c'est peut-être pour cette raison que Matthieu précise que le royaume de Jésus est le royaume des cieux. Ce royaume n'est pas comme les royaumes qui existent sur la terre. De ce fait, nous ne devons pas nous attendre à ce que Jésus soit comme les rois de notre monde.
Merci Guy. Notre discussion va bientôt toucher à sa fin. Comment voulez-vous la conclure ?
Nous continuerons à réfléchir sur la royauté divine de Jésus la prochaine fois. Et nous nous pencherons surtout sur sa mort et sa résurrection. Mais à présent, pour conclure, je voudrais faire deux remarques. Tout d'abord, je voudrais affirmer que Jésus est véritablement Emmanuel, c'est-à-dire qu'il est Dieu avec nous. Il est le roi divin promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Ensuite, tous les récits trouvés en Matthieu chapitre 8 et 9 révèlent non seulement l'autorité royale et divine de Jésus, mais aussi sa compassion pour les gens éprouvés de toutes sortes d'afflictions. En ceci, Jésus est aussi un roi qui n'est pas comme les autres. Les rois de la terre s'occupent à peine de leur peuple et malheureusement, trop souvent, ils l'exploitent et sont responsables d'injustice. Chers amis, Jésus n'est pas un roi comme les autres. Il est le roi céleste venu sur terre pour agir avec compassion et puissance auprès des gens affligés. Or, ce roi céleste est aussi un roi qui sauve. Il veille avec miséricorde sur chacun d'entre vous, comme sur moi aussi.
Nous remercions Guy pour sa participation aujourd'hui et attendons la suite de ses réflexions sur Jésus, notre roi céleste. À présent, Brigitte est de retour parmi nous. Elle va nous conduire dans une courte prière.
Seigneur Jésus, nous reconnaissons que tu es le roi glorieux et magnifique qui règne dans les lieux célestes, et nous te louons. Nous te remercions parce que tu es un roi qui n'est pas comme les autres. Nous te remercions pour ta compassion, car tu t'intéresses vraiment à nous. Nous te remercions pour ta puissance et ton autorité, car tu peux réellement changer nos vies. Père céleste, nous te prions afin que, par ton esprit, tu nous aides à mieux connaître Jésus le roi, à mieux lui faire confiance, à mieux le suivre et mieux lui obéir, car nous reconnaissons que son règne est bienveillant. Nous prions pour toutes celles et tous ceux qui sont affligés pour diverses raisons. Que Jésus le roi, compatissant et puissant, leur apporte un secours réel et efficace. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans nos cœurs et dans nos vies, comme au ciel. Au nom de Jésus, amen.
Merci. C'est ainsi que notre émission se termine. Je vous encourage à revenir bientôt pour en apprendre davantage sur le royaume des cieux. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.